Allez, si vous voulez bien, on replonge. Alors, ça va pas le micro ? Faut me dire, hein, c'est très, très difficile. En plus, et oui, mais il baisse tout le temps. Entraîné par son poids, il baisse sans arrêt. Ah ouais, je vais comme ça. Ouais. Mais alors attends, il est allumé celui-là ? Non. Non, non. Voilà. Non, comme ça, c'est mieux. Non ? Tu arrives ? Ça, le problème, c'est que ça glisse. Bon, est-ce que comme ça, vous m'entendez ? Oui, c'est bien ? Alors, quand vous entendez plus, vous signalez. Parce que moi, le micro baisse, j'ai du mal à suivre. Voilà, on attaque donc ce deuxième point, après la réalité géographique et historique. La Bible comme bibliothèque, en fait, on attaque le livre. La Bible, le livre. Alors, quand on dit le livre, ou quand on dit la Bible, en fait, il y a une illusion d'optique. Parce que nous, on a un livre relié, évidemment. Mais le mot d'où ça vient, c'est un nom grec, ta biblia, c'est un collectif, ça veut dire les livres. Voilà. Et donc c'est trompeur de dire la Bible. Déjà pour les chrétiens, il y a deux volets, Ancien et Nouveau Testament, mais chacun est formé d'une collection de livres qui ont été reliés à partir de l'époque chrétienne, à partir du IVe siècle, mais qui auparavant était sous forme de rouleaux. Rouleaux, quelques-uns de parchemin, rouleaux de papyrus, et donc qui étaient séparés. Donc les ordres, ils ont été définis au moment où on relit le livre. Alors, le problème, c'est que normalement, dans un enseignement de français, quand on attaque un texte, on vous dit qu'un texte, il faut d'abord regarder quel est son auteur et à quelle date il a été écrit. Il a été écrit. Donc la Bible, on devrait faire pareil. On me propose un texte, l'appel de Samuel au chapitre 3 de 1 Samuel. Quel auteur, quelle date ? Réponse, vous repasserez, on n'en sait rien. C'est embêtant. En fait, pourquoi ? Pourquoi c'est si difficile de dater les livres de la Bible et pourquoi c'est si difficile, sinon impossible, sauf pour quelques prophètes et encore, de leur attribuer un auteur qu'on puisse nommer ? C'est très difficile parce que la Bible est une bibliothèque, que dans une bibliothèque, il y a des genres littéraires différents, très différents. Évidemment, les livres ne sont pas signés. Et que donc, on va avoir tout un mélange de textes divers. Et donc, la question ne va pas être à quelle date ou quel auteur, mais de quel genre littéraire cela relève-t-il ? D'accord ? Donc je déplace la question. Je vous montrerai tout à l'heure pourquoi on ne peut pas dire la date de l'auteur, même si on a quelques idées quand même, ni vraiment qui est l'auteur. Mais je veux d'abord mettre en place cette question. Quand on ouvre la Bible, la question c'est de quel genre littéraire ça relève ? Pourquoi ? Parce que, suivant le genre littéraire, si c'est un roman, si c'est une fiction, si c'est un livre d'histoire, si c'est un livre de comptabilité, si c'est une annale royale où on consigne les dates des rois, les dates de leur mort et leurs principaux faits, si c'est un poème, si c'est une prière liturgique, si c'est un conte, vous voyez bien que ce n'est pas pareil, qu'on ne lit pas dans le même esprit un roman et un livre de comptabilité quand même. Voilà. Or, dans la Bible, on a tout ça. On a tout ça sans prévenir. On a d'abord, et j'y reviendrai cet après-midi probablement, ce qu'on peut appeler des mythes d'origine. Alors, je reviendrai sur la notion de mythe. Hein. Ça ne veut pas dire que c'est faux quand on dit un mythe, mais ça veut dire que c'est un récit qui a un certain principe, pré-scientifique qui a un certain principe. Au fond, on essaye de dire les grands principes sous forme imagée, les grands principes qui régissent l'humanité, le commencement, la fin, le rapport entre les dieux et les hommes, des hommes entre eux, voilà. Les mythes d'origine. On a des légendes patriarcales. On raconte ce que les pères ont fait. Alors, légende, ça ne veut pas non plus dire que c'est faux. La légende, au contraire, elle a toujours une accroche dans le réel. Un nom, un lieu, un événement. Après, on brode, parce que les légendes, ça s'est transmis de génération en génération, évidemment. Voilà. Il y a même une épopée dans la Bible. L'épopée, c'est en gros un récit de conquête. Vous connaissez l'Iliade et vous connaissez l'épopée de Roland. Un récit de conquête, vous ai dit tout à l'heure, c'est le livre de Josué. Conquiert le pays à bras forts et à main étendue avec des armées, etc. Bon, ça n'a jamais eu lieu. Ça ne fait rien. C'est un récit de conquête. Épopée. On a des récits et des contes populaires. Par exemple, vous connaissez probablement l'histoire de Jonas. Jonas dans le ventre de son grand poisson. Vous savez, le prophète têtu que Dieu envoie à l'est et qui fiche le camp à l'ouest, il se fait rattraper par la tempête et il échoue dans le ventre d'un poisson qui va le recracher au bon endroit. Bon. C'est un conte, évidemment. C'est un conte qui a un sens, et un sens très fort. Mais c'est un conte populaire. On a, je le disais tout à l'heure, des annales royales. Donc ça, ça faisait partie, au fond, de la fonction des scribes royaux, de noter des choses à partir du moment où l'écriture est apparue. C'est tard, mais quand même, on a des annales royales. On a des poèmes et des poèmes liturgiques. Par exemple, les psaumes, qui sont des prières chantées, psalmodiées, au temple, pour de grandes occasions, qui sont aussi des prières individuelles, mais qui sont d'abord des poèmes. On a ces textes des prophètes. Alors, comment qualifier les prophètes ? Les prophètes, c'est des gens qui parlent parce que ils ont eu l'appel de Dieu et qu'ils se sentent obligés de se lever et de dénoncer ce qui va mal, d'annoncer ce qui risque de se passer, sous une forme très généralement poétique, beaucoup plus suggestive que clairement démonstrative. Certains sont plus démonstratifs que d'autres, mais en gros, quand même, c'est poétique, avec des visions, avec des images, des métaphores, etc. Donc ça s'appellera des oracles, par exemple, mais le mot n'est pas très bon. On a des chants de victoire, par exemple, un poème érotique. Le Cantique des Cantiques est d'abord un poème d'amour à dimension érotique. C'est magnifique, mais c'est d'abord ça. Après, on a toujours fait une lecture spirituelle, mais enfin, c'est d'abord ce que c'est dans la Bible. On a même cette méditation quasi philosophique sur l'absurdité du monde sans Dieu, qu'est celui qu'on appelle l'Ecclésiaste ou le Coëlette, vanité des vanités, et tout est vanité. Et l'homme est comme la bête, il se couche, il meurt et il va en bas. Voilà. Et ça, c'est dans la Bible, il y a tout ça. Donc, l'important, c'est quand même d'abord de repérer à quel genre littéraire appartient le texte que je suis en train de lire ou que je vais lire. Et il y aura la même chose dans le Nouveau Testament. Les évangiles, ce n'est pas la même chose qu'une lettre. La littérature apocalyptique, l'apocalypse, elle a ses codes, elle a sa façon de procéder. Et les auteurs possèdent les codes et la façon de procéder du genre littéraire qu'ils emploient. C'est jamais des gens naïfs, évidemment. Voilà, donc ça, c'est vraiment important. Deuxième point sur lequel je reviens, c'est cette qualité de ces textes d'être issus d'une histoire de relecture et d'actualisation. Et aussi, souvent, de juxtaposition de récits ou de méditations en tension. La Bible n'évite jamais les conflits entre les interprétations. Au contraire, elle prend en compte le fait que sur un événement donné, sur une réalité donnée, il y a eu des écrits différents, des interprétations différentes, et au lieu de trancher en disant « ça c'est bon et ça c'est à jeter », elle donne les deux. Et généralement en plus, elle les articule, et parfois même elle les entremêle. Alors, je vous donne un exemple. En fait, vous l'avez sur votre... C'est peut-être pas la peine que vous le cherchiez pendant une heure. Sur la feuille d'introduction, j'avais mis une feuille de texte où il y avait le Samuel tout à l'heure. Mais je vous donne des exemples. Ne vous fatiguez pas, je les lis. Le récit de la Genèse. Genèse 1, c'est donc, je l'ai déjà dit, ce grand hymne liturgique à la beauté de la création. Dieu crée en bénissant, il crée par la parole un monde de douceur, puisque c'est un monde où la nourriture est végétale. Et il confie ce monde à l'homme. Lorsque le récit de Genèse 1 se termine, vous avez à la fin du chapitre ces mots, « Le ciel, la terre et tous leurs éléments furent achevés. Dieu acheva au septième jour, on est en train de mettre en place le sabbat, hein, l'œuvre qu'il avait faite. Il arrêta au septième jour l'œuvre qu'il faisait. Dieu bénit le septième jour et le consacra, alors qu'il avait arrêté toute l'œuvre qu'il avait lui-même créée par son action. Telle est la naissance du ciel et de la terre lors de leur création. Le jour où le Seigneur Dieu fit la terre et le ciel, il n'y avait encore sur la terre aucun arbuste des champs, aucune herbe des champs n'avait germé. Il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol. Le Seigneur Dieu modela l'homme, etc., etc. Quand vous lisez ça à la suite, vous dites, qu'est-ce qui leur prend ? On vient de finir. Ça y est, c'est fait. C'est créé. Tout a été mis en place. Le ciel, la terre, les eaux séparées. La verdure, les animaux, ceux dans l'eau, ceux sur la terre, ceux dans le ciel, l'homme et la femme. Dieu leur a confié l'univers, la nourriture végétale. Enfin voilà, on a fini, Dieu se repose. Et ça recommence. Le jour où le Seigneur fit le ciel et la terre. Et ça recommence différemment. C'est un autre récit. Et n'essayez pas de les faire coïncider. Le principe, évidemment, est le même. C'est Dieu qui crée et il crée pour le bien de l'homme. N'empêche qu'il n'y a aucun moyen de faire concorder, comme on dit, les deux récits. Et il ne faut pas. Et ce n'est pas fait pour ça. C'est fait, au contraire, pour vous faire comprendre qu'on n'est pas dans consignation de ce qui s'est passé le premier jour. De toute façon, il n'y avait personne. Hein, personne pour noter. Hein. Voilà. On n'est pas là-dedans. On est dans des méditations différentes sur ce que c'est que la création du monde et ce que c'est que la réalité du monde devant Dieu. Ça va ? Alors, il y a une première méditation qu'on met en tête. Ce qu'on met en tête dans la mentalité ancienne, c'est le plus important. Je vous l'ai dit, qu'il y ait bénédiction, douceur. Voilà. Mais ensuite, il y a un deuxième récit qui va petit à petit prendre davantage en compte la réalité humaine qui, elle, est faite de mensonges, de soupçons, de souffrances, de morts, etc. D'accord ? Il y a deux façons de raconter les choses. Eh bien, on les juxtapose. Et ce n'est pas que le lecteur se débrouille, mais qu'il médite sur l'une et sur l'autre. Personne ne prétend tout dire. Et personne ne prétend que c'est scientifique. Ça se situe à un autre niveau, au niveau du sens. Ça va, ça, c'est à peu près clair ? Alors, qui a écrit ça ? Il ne signe pas, hein ? Personne n'a demandé de droit d'auteur. Donc voilà, on n'en sait rien. On peut repérer des époques et des lieux. Si on pense à ce que je vous disais tout à l'heure de l'influence culturelle, par exemple, du récit de Gilgamesh sur le deuxième récit de création, où c'est le serpent qui vient, au fond, manger la plante d'immortalité aussi, en tout cas mettre la zizanie entre Dieu et l'homme et entre les hommes. On peut se dire que ça, Gilgamesh, c'est des récits qui viennent du nord de la Syrie. Donc c'est peut-être à une époque où on était en contact avec la Syrie, donc ça remonte vers le 8e, 7e siècle. Ça va ? Ah, voilà, c'est vague. Hein. Quand on est dans le premier récit de création, on peut mettre en rapport avec l'épopée, le grand récit babylonien de la lutte entre le dieu du ciel, Marduk, et la déesse des eaux, la dangereuse Tiamat, séparation des eaux en haut et en bas. Donc, est-ce que ce n'est pas une influence reçue à Babylone ? Le récit aurait pu naître, par contraste, évidemment, c'est toujours par réaction, mais au milieu de ce VIe siècle de Babylone dont on va parler. Vous voyez comme... Hein, voilà, il ne faut pas demander trop. On a les textes, on en profite. Il faut avoir des idées sur la question. Et puis après, voilà, hein, ça n'a pas tellement d'importance. Après, un autre exemple... Il y a des auteurs qu'on croit qu'on connaît ou qu'on croit connaître parce qu'il y a des auteurs qui signent. Il y en a peu, mais ce sont les prophètes. Les prophètes sont les seuls auteurs des livres bibliques qui donnent leur nom et le nom est devenu le nom du livre. Alors il y a aussi quelques noms qui sont des aventures de telle ou telle personne. Ruth, la jolie histoire de Ruth la Moabite qui s'appelle Ruth. Il y a le livre de l'histoire de Judith. Voilà. Mais en gros, les livres bibliques n'ont pas le nom de leurs auteurs, sauf les prophètes. Alors, on connaît des grands prophètes, Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, et puis il y en a 12 petits qui ne sont petits que par la taille des livres, mais qui sont aussi importants, Osée, Amos, etc., Michée. Bon. On connaît les noms de ces prophètes, et normalement, le livre commence par parole que vit, ou parole qu'en tant que le Seigneur adressa à, ça dépend tantôt des visions, tantôt des paroles, au prophète Isaïe, au prophète Jérémie, et souvent aussi une date qui fait qu'on peut rapporter ces prophètes à, par exemple, le début du livre d'Isaïe, on peut le situer dans les années 720-700. Jérémie, on peut le situer dans les années 612-598. Ézéchiel, encore plus tard, on peut à peu près les situer. Ceci dit, c'est présenté comme ça, mais dans le livre du prophète, il y a certainement la présence de paroles, de prophéties, je reviendrai sur ce que c'est une prophétie, hein, d'écrits qui ont été mis là à cette époque, mais il y a toute l'école de ces prophètes qui en a fourré d'autres, qui a relu, qui a réactualisé, si bien que, oui, le début du livre d'Isaïe semble bien avoir été écrit à la fin du 8e siècle. Mais très vite, vous trouvez là-dedans des textes qui sont des relectures beaucoup plus tardives, clairement. Puisqu'ils témoignent parfois d'événements historiques dont on sait qu'ils sont plus tardifs. On a des preuves. Le livre d'Isaïe lui-même, il est formé, alors les exégètes se disputent, ça n'a aucune importance, de deux ou trois parties. On va dire trois parties, parce qu'il y en a au moins trois qui sont claires. Première partie qui est attribuée aux prophètes du 8e siècle. Ce n'est pas vrai. Il y a des chapitres, mais il y en a d'autres. Deuxième partie, assez homogène, des chapitres 40 à 55, qui date très clairement, parce que ça, on le dit, que le roi perse Cyrus est nommé, il est même le Messie de Dieu. Donc on sait très bien qu'il s'agit de l'époque de Cyrus, ça c'est datable, hein. On sait que c'est quelque chose comme 530. Voilà. Ça c'est le milieu du livre, 15 chapitres. Et puis la fin du livre fait allusion à des événements beaucoup plus tardifs. Donc on dit, ben, il y a trois morceaux dans le livre d'Isaïe. Ouais, mais enfin, il y a quand même un gars qui a recousu tout ça, qui a unifié, ou des gens qui ont recousu, qui ont unifié. Voilà. C'est difficile de savoir. Alors, qui est Isaïe là-dedans? Puisqu'on a trois époques. Ce n'est pas le même qui a écrit à trois époques différentes. Hein. Il n'avait pas le don de relocalisation. Il y a des écoles prophétiques. Il y a des écoles prophétiques qui ont repris les oracles, qui ont relu, qui ont actualisé. Dernier exemple à propos des prophètes. Un prophète que j'aime beaucoup, même s'il n'est pas drôle, c'est le prophète Amos, qui est un prophète qui se situe lui-même et dont certains éléments montrent que c'est très clair, en 735 avant Jésus-Christ. C'est un des plus vieux, plus anciens prophètes, et ses textes, certains textes sont des plus anciens. Amos, c'est le prophète de la justice sociale. On l'entend parfois, c'est toujours un peu... Les textes sont toujours découpés de façon à être un peu atténués, un peu édulcorés, dans la liturgie. Amos, c'est le gars, je vous en lis, qui vous dit « Eh bien, puisque vous pressurez l'indigent en lui volant sa part de grain, ces maisons que vous avez bâties, vous ne les habiterez pas. Ces vignes que vous avez plantées, vous n'en boirez pas le vin, car je connais la multitude de vos révoltes, l'énormité de vos fautes. Allongés sur des lits d'ivoire, ils se régalent de morceaux de veau et de moutons choisis dans leurs étables. Ils improvisent au son de la harpe en buvant du vin et en se parfumant d'huile. C'est pourquoi ils vont être déportés, en tête des déportés, et fini la bande des vautrés. » À moi, c'est tonique. « Jamais je n'oublierai aucune de leurs actions. En ce jour-là, je ferai coucher le soleil en plein midi. J'enténèbrerai la terre. Je ferai tourner en deuil vos pèlerinages, je vous ferai porter le deuil comme celui d'un fils unique. » Les évangélistes s'en souviendront. Bon, je passe, hein, parce que tout le livre est comme ça. Alors, on est dans un moment où il y a effectivement tension très forte entre les grands propriétaires terriens extrêmement riches et une population paysanne pressurée, réduite, sinon en esclavage, du moins en servitude, extraordinairement pauvre. Et le prophète se dresse pour dire « c'est pas possible, ça va mal finir, d'ailleurs ça a très mal fini. » J'avance dans le livre. « Oui, voici que je vais donner des ordres. Je vais secouer la maison d'Israël comme on secourait dans un crible. C'est par l'épée que vont mourir tous les coupables de mon peuple, eux qui disaient « le malheur ne s'approchera pas, il ne peut pas nous atteindre. » Et écoutez la suite. « Ce jour-là, je relèverai la hutte croulante de David. » J'en colmaterai les brèches, j'en relèverai les ruines, je la dresserai comme au jour d'autrefois. Voici que viennent les jours, oracle du Seigneur, où le laboureur suit de près celui qui moissonne, où les montagnes ruissellent de vin et de blé, Je change les destinées de mon peuple Israël. Ils rebâtissent les villes dévastées. Ils y plantent des vignes pour en boire le vin. Ils cultivent des jardins pour en manger les fruits. Je les plante sur leur terre. Ils ne seront plus arrachés de leur terre, celle que je leur ai donnée, dit le Seigneur ton Dieu. Autrement dit, on a, dans le livre d'Amos, 8 chapitres et 10 versets de vitupération et de menaces et pas d'annonce, parce qu'on est en train de le vivre, du fait que la Syrie va venir s'emparer de ce pays, et de fait prendre la capitale Samarie et déporter la population. On le voit venir, le prophète. Alors, il n'annonce pas l'avenir, hein, il sait que ça se passe comme ça. Peut-être c'est juste au moment où. Et tout d'un coup, au détour du verset 10 du 9e chapitre, qui est le dernier, on a 4 versets où Dieu dit, eh ben non, on va tout recommencer, ça va aller bien, je vais les rebâtir, je vais les relever, je vais les planter sur leur terre. Qu'est-ce qui se passe? Il est clair qu'une finale de 4 versets, une finale d'espérance, a été ajoutée au livre d'Amos beaucoup plus tard. Beaucoup plus tard. Peut-être même 2 siècles plus tard ou 2 siècles et demi plus tard, quand ceux du Sud qui ont été exilés à Babylone sont revenus chez eux et là se disent « Mais Amos nous l'avait dit, on va être replantés. » Voilà, alors le prophète Amos, lequel c'est ? Celui qui vitupère ou celui qui promet l'espérance des 4 derniers versets ? Il ne faut pas choisir non plus, c'est le livre entier qui fait sens. Autrement dit, les scribes, les prêtres, les auteurs qui ont, pendant l'exil, je vais en parler, composé la Bible, ont compris que le livre du prophète, qui condamne, qui punit, qui venge, Dieu est vengeur, ne pouvait devenir parole pour eux que s'il y avait cette version d'espérance qui ouvre à la fin. Et c'est ça qui fait le livre d'Amos, ça va ? Donc un livre relu, repris, probablement sur plusieurs siècles. Voilà, ça c'est ce que je voulais vous montrer. Alors, je conclus de cela que, avant d'avancer un peu dans la précision quand même, comment ça a été écrit, où on va avancer, je conclus de cela qu'il y a plusieurs façons d'aborder les livres bibliques, notamment depuis 2 siècles. Il y a d'abord une méthode dont le nom est barbare, mais il faut quand même que je vous le dise parce que vous allez le trouver. Alors, l'étude des livres de la Bible, ça s'appelle l'exégèse. C'est la recherche pour comprendre et ensuite interpréter. La recherche sur les textes pour les mieux comprendre, les mieux expliquer, l'explication des textes. Mais on parle d'exégèse historico-critique. Ça veut dire que depuis un siècle, peut-être un peu plus, mais c'est surtout les dernières 70 années qui ont marché dans ce sens, on a fait le travail des armées de spécialistes de la Bible qui ont fait sur chaque livre ce travail d'essayer, à travers les textes, d'identifier quel morceau de texte correspond à quelle époque. Quel morceau de texte répond à telle problématique qui se posait dans un lieu donné. Et donc d'identifier au fond les sources, les lieux, et peut-être les auteurs, les groupes qui ont rédigé les textes et pour qui. Donc ils ont fait cette espèce de découpage, parfois qui donne l'impression d'un saucissonnage, des textes en rondelles, pour dire, ben voilà, Genèse 1, ce que je vous ai dit tout à l'heure très vite, comme si c'était évident, mais derrière il y a des décennies de travaux par des spécialistes. Genèse 1, c'est plutôt Babylone en réponse aux grandes mythologies babyloniennes de bagarre entre le ciel et la terre, etc. Genèse 2, c'est plutôt voilà, dans le royaume du Nord avant, en réponse aux grandes mythologies assyriennes. Voilà. Amos, c'est effectivement le prophète de la chute du royaume du Nord, mais c'est aussi un moment d'espérance. Ce travail, qui est un énorme travail, parce qu'il y a tout le travail historique derrière, effectivement la confrontation avec l'archéologie, la confrontation avec les textes des cultures environnantes, donc des langues à apprendre, etc. Le travail sur la Bible, cet énorme travail a fini par éclaircir au moins dans une certaine mesure, les différents éléments qui ont fini par constituer les livres bibliques. Ça va, ça ? Alors, c'est du travail critique. Critique, ça veut dire qu'on sépare. On juge et on sépare pour mieux analyser. Et c'est un travail historique, puisqu'on recherche les moments de l'histoire où les textes ont été écrits, ou les milieux pour lesquels ils ont été écrits. Ça va ? Voilà. Ça, vous n'avez pas à le faire, parce que c'est du travail de très longue haleine, de gens qui ont usé leur vie et leurs yeux là-dessus, et qu'en gros, c'est pas fini, parce que ça se bagarre toujours, mais en gros, c'est fait. Vous le trouvez dans les notes des Bibles, dans les introductions. Voilà. En gros, le boulot est fait. Le gros du boulot est fait. Par contre, alors, depuis une trentaine d'années, peut-être, oui, 25, on propose, parce que c'est quand même ça qui est important, de prendre les textes tels qu'ils ont fini par être fixés, et tels qu'ils ont fait vivre étant fixés, la foi d'Israël, le monde juif pendant des siècles et jusqu'à aujourd'hui, est telle qu'ils ont nourri les auteurs chrétiens, les évangélistes, et les évangiles, tels qu'ensuite, Ancien et Nouveau Testament, on nourrit la tradition chrétienne, ça va ? C'est les textes bouclés, terminés, tels qu'ils vous sont servis, reliés dans les Bibles qu'on vous vend. On va prendre les textes comme ça, et on va essayer de les lire et de les expliquer différemment, en considérant que ce sont des textes le plus souvent narratifs, ou poétiques, ou démonstratifs, mais qui s'adressent à des lecteurs. Et que donc, on va essayer de comprendre ce que le texte veut transmettre comme message à son lecteur, à travers la fiction, le roman, le récit, le conte, les annales royales, ou ce qu'on veut vous transmettre, et bien c'est la succession des rois, tout simplement, vous voyez ce que je veux dire ? Voilà. Quel effet le texte veut produire sur le lecteur ? Quel est le message en fait, du texte ? Et là, on s'est donné des outils, ça s'appelle une analyse narrative quand c'est des récits, ça s'appelle la rhétorique quand c'est des discours ou des démonstrations. On s'est donné des outils pour mieux faire apparaître le message que le texte veut transmettre à son ou ses lecteurs, ou les messages, ou le débat que le texte veut porter à la connaissance du lecteur. On ne vous donne pas des solutions, on vous donne essentiellement des questions. Voilà. Alors, cette exégèse qu'on appelle narrative et historique, c'est au fond, de façon pas du tout, sans trop d'appareil scientifique, ce qu'on vous invite à faire en vous disant, quand vous ouvrez un texte, regardez le contexte. Ensuite, regardez comment ça commence, regardez comment ça finit. Amos, ça commence par « ils ne mangeront pas les fruits de la terre, ils n'habiteront pas dans leur maison. Je vais les déporter. » Et ça se termine. « Je les remettrai dans leur terre, ils mangeront les fruits qu'ils ont. » Vous voyez ? Il y a un changement entre les deux. Voilà, on vous donne un certain nombre d'indications. Vous voyez le plan, vous voyez comment c'est fait, les acteurs, le temps, le lieu. On vous donne un certain nombre d'indications pour vous aider à entrer dans les textes. Et ça, vous pouvez le faire. Ça marche ? Après, il y a des gens qui parlent aussi d'une approche canonique. C'est un peu la même chose, mais c'est de dire, au fond, la Bible nous a été transmise comme un tout. Il y a des textes qui sont bibliques, il y a des textes qui ne le sont pas. Ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas bons. Hein. Le monde juif est très fort pour ça. Il y a un canon des Écritures qui est fixé depuis, en gros, la fin du 1er siècle après Jésus-Christ. Moyennant quoi, dans les fêtes, dans la liturgie, partout, ils lisent des tas de textes, Tobie, Judith et d'autres encore, qui ne font pas partie du canon des Écritures, mais qui sont très intéressants. Vous voyez ce que je veux dire ? Ils distinguent. Bon. Nous aussi, on a un canon des Écritures, c'est-à-dire qu'on a des textes qui sont reliés et ce livre a un sens en lui-même, même si ensuite, il y a des tas d'autres textes intéressants, il y a des commentaires, il y a les pères de l'Église, il y a la scolastique, il y a les théologiens, etc. Mais puisque c'est relié, puisque c'est donné comme un tout, hein, où on doit essayer d'entendre l'écho de la parole de Dieu, il faut aussi... toujours intéressant de lire le texte dans cet environnement d'ensemble. C'est-à-dire qu'on lit un texte du Nouveau Testament et on s'aperçoit que dedans, il y a des échos ou des éléments qui viennent en direct de l'Ancien Testament. Et on va les chercher pour mettre en rapport. Vous voyez ? On essaye de lire la Bible dans les échos internes de ce gros ensemble. Parce que ça se répond, ça se peint, ça construit quelque chose. Et c'est ça qu'on appelle une approche canonique. Voilà. Ça, c'est juste pour enlever la terreur que le vocabulaire savant peut faire régner. Il n'y a rien de terrorisant là-dedans. Ça marche ? Ça vous va ? Voilà. Donc vous, vous faites une approche littéraire, narrative, voilà, avec quelques outils. Et puis, vous n'oubliez pas que ça fait partie d'un ensemble. Et que c'est intéressant de voir comment ça joue dans cet ensemble. Ce n'est pas rien de voir que la Bible commence par la Genèse et se termine par l'Apocalypse. Et de lire le début et de lire la fin. Se dire, tiens, il y a un écho. Ce n'est pas rien de lire dans le livre de la Genèse, on pourra en dire un mot tout à l'heure, de voir qu'en gros, ça commence, bon, au chapitre 4, c'est quand même très au début, par un frère, les premiers frères qu'il y a sur la terre, ils s'entretuent. Il y en a un qui tue l'autre. Ce n'est pas terrible. Or, le livre de la Genèse se termine par l'histoire de Joseph, qui est une histoire aussi de frères qui ont essayé de tuer leur frère. Mais qui finissent, après de longs moments de réflexion et de méditation et de souffrance, par une réconciliation. Et donc la Genèse est inscrite entre des frères, les frères qui s'entretuent à l'origine et les frères qui peuvent arriver à se réconcilier à la fin. C'est intéressant de voir ça. Voilà. D'accord ? Bon, je donnerai d'autres exemples. Voilà. Alors, maintenant, est-ce qu'il y a des questions déjà là-dessus ? Est-ce que vous avez le droit de réagir et de râler ? Hein ? Il n'y a pas que moi, oui ? Alors, le judaïsme, pendant très longtemps, n'a pas du tout eu cette approche-là. La Bible se... Ils ont cette idée des échos et du dialogue, alors là, poussée au maximum. La Bible, c'est fait pour en discuter et l'interpréter. Et donc, il y a toute la loi orale, on en reparlera autour, le Talmud, qui sont les interprétations de Rabbi Antel et de Rabbi Trugmuche qui se répondent. Et il y a cette idée au maximum que chaque verset, chaque élément, chaque lettre peut être lu avec multiples facettes. Donc, c'est une richesse incroyable. Mais la dimension historique, alors l'exégèse historico-critique, a été étrangère au monde juif jusqu'à il y a très peu. Et quand on leur dit Abraham, c'est plus au 19e siècle, c'est au 5e siècle, ils vous répondent, qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse ? On n'a rien à faire. Mais alors, rien à faire. Voilà. Parce que ce n'est pas comme ça que le texte fonctionne. Le texte fonctionne par la signification de chaque morceau, de chaque lettre, est-ce que les rabbins, à travers les siècles, en ont fait, ce qu'on peut lui faire dire aujourd'hui et quel dialogue on peut engager à ce sujet. Bon, après, depuis une trentaine d'années, et on voit bien qu'il y a eu des livres depuis 40 ans, ils s'y sont mis, à l'exégèse historico-critique, à l'archéologie, etc. Ils s'y sont mis. Mais pas de la même façon aussi nécessaire que nous. Pour nous, c'est indispensable. Eux, c'est pas ça qui les intéresse dans la Bible, quoi. Oh, il y a eu des bagarres, oui, mais vous savez. Oh, c'est récent. Ça commence quand même au XVIIe siècle. Après, c'est le monde protestant qui avait une approche libre de la Bible, qui a surtout développé cette exégèse. Donc, évidemment, en première ligne, les Allemands, parce que c'est des gens qui travaillaient, donc ils travaillaient les textes anciens, aussi grecs et latins. Voilà, et que le protestantisme permettait cette questionnement sur la Bible. Alors, l'Église catholique a longtemps refusé, jusqu'au milieu du XXe siècle. Puis un jour, ils ont compris que, voilà, on ne peut pas toujours prendre le train à l'envers, quoi. On ne peut pas arrêter l'histoire. Et que c'est d'une riche... Il faut accepter de voir que c'est une richesse d'autant plus grande que ce n'est pas parce qu'on n'en fait pas une lecture à plat, historique, qui finalement mène à pas grand-chose, qu'on ne reconnaît pas dans ces textes, et au contraire, une richesse de signification, d'expérience humaine, religieuse et de connaissance de Dieu d'autant plus grande. Vous voyez le poids d'histoire que ça et d'expériences diverses que ça véhicule. Donc voilà, maintenant, ça n'est plus un problème. Oui ? Est-ce qu'il y a, à la suite ? Oui, plus. Ah non. Ah non, on ne touche pas. Ah oui, on ne touche pas. Non. On traduit toujours dans d'autres langues. Mais ça, on en reparlera. En monde, surtout en monde. chrétien, on traduit. Mais le canon, si vous voulez, le canon, qui a mis du temps à être fixé dans le monde chrétien, hein, probablement 4e siècle, il n'y a pas de fixation magistérielle du canon avant le Concile de Trente au 16e siècle. Mais en fait, le canon, dès le 3e, 4e siècle, il est là. Hein, il est là. On n'y touche pas. Sur ces bornes, on dit tel texte, on fait peut-être pas partie, ou peut-être texte, voilà. Mais au centre, non, on ne bouge pas. Bon, allez, on avance. Alors, non, j'en suis là. Bon, je vous ai dit, il n'y a pas de date. Maintenant, je vais vous en donner quand même un peu des dates. Je ne vais pas vous laisser comme ça nager dans des millénaires. En réalité, après tout ce travail de l'historico-critique et qui continue, on s'aperçoit qu'il y a une époque qui est assez intéressante. Alors, il y a eu des gens, ça, il y a déjà 50 ans, hein, au moins, peut-être même un peu plus, qu'un certain nombre d'historiens et de philosophes réfléchissent sur cette question. Donc, je reprends simplement, j'essaye de vulgariser ce qu'ils disent. Il y a une époque qui est le 6e siècle avant Jésus-Christ, en gros, hein, qui... Dans toutes les civilisations qu'on connaît, alors on ne sait rien de l'Amérique et on ne sait pas grand-chose de l'Afrique, mais dans toutes les civilisations qu'on connaît, a été une époque extraordinairement riche du point de vue de l'émergence de la réflexion humaine. C'est le 6e siècle avant Jésus-Christ où vous voyez apparaître, quelques dizaines d'années de différence, Bouddha en Inde. Ensuite, ça va gagner la Chine et partout. Confucius en Chine. Zoroastre, ou Zarathoustra, en Perse. Les philosophes présocratiques, Parménide, Héraclite, Empédocle, en Grèce. L'exil à Babylone, dans le monde juif, 587-538, avec ensuite le retour sur la terre d'Israël. Vous voyez, ça balaye jusqu'en Orient, dans ce monde connu, l'émergence de réflexions et de propositions philosophiques et religieuses assez extraordinaires et qui ensuite ont fait souche et ont duré et ont transformé quelque part la face de la Terre. Du coup, on a proposé d'appeler ce 6e siècle l'époque axiale. Vous en ferez ce que vous voudrez, je trouve que c'est intéressant parce que tout d'un coup, on s'aperçoit, ben oui, c'est vrai. Quand j'ai découvert ça, je me dis, mais après, c'est faux, c'est vrai. Alors, on explique ça pour des raisons de structure économico-politique. Effondrement des grands empires totalitaires, montée des bourgeoisies, bon, c'est un peu compliqué. Enfin, il y a probablement des raisons structurelles liées au changement de forme politique et surtout au changement de richesse économique, voilà, qui passe entre des mains plus nombreuses et de gens qui ont le temps de réfléchir. En tout cas, on voit bien que là, il se passe quelque chose. Or, effectivement, au milieu du 6e siècle, pour le peuple juif, on est en exil à Babylone. Je vous ferai le détail de l'histoire cet après-midi, mais le royaume juif qui s'était divisé en deux ou trois siècles avant et dont le nord avait déjà été rayé de la carte par les Assyriens, est rayé de la carte en 587 par les Babyloniens, Nabucodonosor, vous en avez entendu parler, ne reste qu'à cause de son nom. Voilà, rayé de la carte, c'est-à-dire que Jérusalem est saccagée, le temple est brûlé, ce qui n'est pas rien, et une partie de la population, la cour, et la suite, les scribes et les artisans, c'est-à-dire tous les gens qui ont une culture et qui ont une capacité créatrice, sont emmenés en exil, déportés, on a parlé de la Gola, déportation, à Babylone. Ce n'est pas une vraie déportation parce qu'à Babylone, ils ne sont pas maltraités. Les Babyloniens étaient moins fous que les Assyriens. Ils prenaient que les élites et ils les réinséraient sur place. Ça pouvait faire bouger le pays et enrichir. Et c'est là, à Babylone, que pendant 50 ou 70 ans, ils vont, au fond, pour ne pas perdre leur identité, devant la grandeur économique et religieuse et culturelle de l'Empire babylonien avec ses diverses propositions pour ne pas perdre leur identité, c'est là qu'ils vont, au fond, comme dans un creuset, refonder ce qui va prendre le nom après de judaïsme. Et c'est là qu'ils vont entreprendre cet immense travail de rassemblement des traditions. Ils n'étaient pas partis de chez eux sans rien. Ils avaient emmené leur rouleau sous le bras, je ne sais pas comment ils avaient fait, mais enfin, ou dans leur tête, parce qu'il y a la tradition orale et les capacités de mémoire sont énormes. Et en tout cas, c'est là qu'ils vont rebrasser tout ce qu'ils ont pour remettre en forme l'essentiel de ce qui va devenir ensuite les livres de la loi, cinq premiers livres de la livre, les livres des prophètes, les psaumes, Job, voilà, les proverbes. Il y a un énorme travail qui se commence à Babylone et qui va se prolonger ensuite quand, à partir de 520, ils vont rentrer chez eux. Certains pourront rentrer chez eux. Et c'est là qu'on va, au fond, décider que les livres de la loi, il y en a cinq, et que c'est clôturé à partir du 5e, 4e siècle. Donc, vous voyez, c'est très tôt qu'il y a les cinq livres, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Ça ne bouge plus en monde juif et bien sûr en monde chrétien depuis le 4e siècle, 5e siècle avant Jésus-Christ. Ça ne bouge plus. Ils vont aussi reprendre les livres des prophètes, en tout cas les grands, quelques petits, et là aussi fixer l'ordre. Donc on parle de clôture de la loi, de la Torah, et puis plus tard, tout ça sera traduit en grec. Bon. Ce qui m'intéressait dans cette affaire, ce n'est pas de vous compliquer la vie, mais c'est de vous montrer qu'il y a quand même un moment qui n'est pas le moment où tout va être inventé, mais qui est un moment, c'est le moment où on s'assoit autour de la table, à plusieurs, avec l'album de famille, les albums de famille. Et on commence à dire, il va falloir faire des livres avec tout ça. Voilà. Alors on réécrit, on mélange, on reprend. Ça marche ? Et que ce moment, c'est l'exil. Est-ce que ça, c'est à peu près clair ? Bon, alors attendez, j'ai fait une bêtise. Voilà. Bon. Du coup, pour ne pas vous assommer trop, je vais passer à quelques points, après on reprendra toute l'histoire d'Israël, mais quelques points un peu plus simples et des questions un peu annexes, si vous voulez bien, mais qui sont quand même importantes parce qu'on se les pose souvent. Je voudrais vous parler des langues de la Bible, dire un petit mot, de la façon dont, alors vous posiez la question, les Juifs, et bien la tradition juive et la tradition chrétienne se rapportent à la Bible, et du coup, parce que ça en dépend, de l'ordre des livres de la Bible. Vous n'y verrez pas grand-chose, mais on va essayer de faire ça. Bon, essayons. Les langues de la Bible, c'est assez simple. Il y en a en gros deux et pas d'autres. Il y en a deux et pas d'autres. Il y a la Bible hébraïque, ça ne s'appelle pas la Bible, ça s'appelle le Tanakh, j'en reparlerai tout de suite. On dit le texte aussi massorétique, je vais vous expliquer pourquoi. Ce que nous appelons l'Ancien Testament, ou en tout cas ce que les protestants appellent l'Ancien Testament, sans une série de livres que les catholiques ont gardés. Cela, tout ça, c'est écrit en hébreu. Hébreu ancien, sachant que cet hébreu, qui a été la langue d'Israël depuis probablement le Xe siècle, lorsqu'on revient d'exil, seuls les savants le comprennent. C'est la langue religieuse qui est restée la langue des prêtres et des savants, mais le peuple, lui, ne le comprend plus. Il parle la langue qui a été dans l'Empire perse, la langue diplomatique, la langue des marchands, la langue tout le monde, il parle l'araméen. Attention, ce n'est pas la langue écrite, enfin, c'est écrit, mais ce n'est pas la langue de la Bible. C'est la langue que les gens parlent et qu'ils comprennent, qui est voisine, mais comme son voisin, le portugais et l'espagnol. Ce n'est pas pareil, hein. Alors, la Bible est écrite en hébreu, les gens comprennent l'araméen. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on traduit. On garde le texte hébreu, et il est gardé à peu près le même jusqu'aujourd'hui. Étonnamment stable. On garde le texte hébreu, mais dans la lecture publique, à mesure que le texte est lu, et pour les livres de la loi, c'est verset après verset, il y a quelqu'un qui est là, et qui, à mesure qu'un verset est lu, le traduit en araméen. Ça va ? Traduction longtemps, longtemps orale. Ça commence, on en a un témoignage dans la Bible, avec le chapitre 8 du livre de Néhémie, où Esdras lit la loi, et il y avait des gens pour traduire, et comme ça les gens comprenaient, vous dit le texte. Ça commence au 5e siècle avant Jésus-Christ, et ça s'étend jusqu'au 2e siècle après. Une tradition orale qui va s'appeler le Targum, et qui sera mise par écrit au 2e siècle après Jésus-Christ. C'est une traduction. Mais la Bible, elle, reste écrite en hébreu, avec quelques petits passages laissés tomber en araméen. Mais vraiment rien du tout. Petit morceau du livre de Daniel, c'est pas grave. Ça va ? Deuxièmement, à partir du 3e siècle avant Jésus-Christ, 285-282, en Égypte, à Alexandrie, probablement le roi d'Égypte, alors il ne s'appelle plus des pharaons, ceux-là c'est des familles de Ptolémée, hein. Probablement le roi d'Égypte, qui savait qu'il avait une très importante population juive. Probablement un ou deux cinquièmes de la ville d'Alexandrie étaient juives. Important comme proportion. Le roi d'Égypte a souhaité avoir, en grec, parce qu'on parlait grec à cette époque-là en Égypte, c'est les successeurs d'Alexandre, a souhaité avoir en grec une traduction de la loi juive. Parce que mes administrés, les gens que je domine, vivent selon cette loi, il faut que je sache ce qu'il faut. Et il a fait ça aussi pour des Égyptiens, enfin ça a été une politique générale, pour des gens qui parlaient des dialectes. Donc il a aidé, facilité, probablement financé, la traduction de la loi juive, les 5 premiers livres, en grec. Ça va ? À Alexandrie, on peut le dater. C'est un Ptolémée qui s'appelait Philadelphe et il a un secrétaire de bibliothécaire avec qui d'ailleurs il ne s'entendait pas mais qui l'a aidé à faire ce travail. Que 185-282, les 5 livres de la loi juive, la Torah, sont traduits en grec. Et en grec, ça va s'appeler les 5 rouleaux, le Pentateuch. Donc quand vous entendez Pentateuch, c'est la même chose que Torah, mais c'est en grec. C'est les 5 premiers livres. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Pour les juifs, c'est le centre. C'est l'essentiel. Ça marche, ça ? Voilà que c'est traduit en grec. Et comme il y a une très jolie légende qui est racontée après, qui dit que le roi a fait chercher, ou les autorités juives, enfin ensemble, ils ont fait venir de Palestine 70 vieillards savants, sages, qui étaient capables de traduire l'hébreu en grec. Et on les a installés dans l'île de Pharos, une petite île au large d'Alexandrie. On leur a fait des conditions princières et on les a mis chacun dans une petite maison avec des repas servis. Enfin, ils avaient tout le confort, tout le confort. Ils ont travaillé, ils ont traduit, ils sont sortis chacun avec leur traduction. Et miracle, les 70 avaient la même traduction. Donc c'était la bonne. C'est la légende, évidemment. Mais puisqu'ils étaient 70, on a appelé cette traduction la traduction des 70, qui est une façon de dire 70. Ça marche ? Voilà. Donc quand vous entendez parler de la 70, c'est d'abord la traduction à Alexandrie de la loi hébraïque, des 5 livres de la loi, la Torah, en grec, devenu le Pentateuch. Après, quand on a commencé comme ça, pourquoi s'arrêter en si bon chemin ? Dans les siècles qui ont suivi, très vite, les prophètes ont été traduits en grec, ça va ? Et même les psaumes, les proverbes, Job, les écrits, les bibles les livres de la Bible hébraïque ont été traduits en grec, et l'ensemble a aussi pris le nom de Septante. D'accord ? Donc on a une forme grecque de la Bible. Attention, c'est une traduction, mais c'est une traduction qui, au moins pour la loi, est très libre. C'est une traduction qui se veut intelligente, on veut faire comprendre. Ce n'est pas du mot à mot. Et on a même, à ce moment-là, ajouté des livres directement écrits en grec. Et c'est cette Septante que les chrétiens vont récupérer et dont ils vont faire, après coup bien sûr, un siècle ou deux siècles après, leur Ancien Testament. Ça marche ? Donc l'Ancien Testament des chrétiens n'existe pas pour les juifs. Eux, ils ont le texte hébreu, dont je vais vous donner le nom, le Tanakh. Les premiers chrétiens, et pendant quelques siècles, ont pour texte la traduction en monde juif depuis 3 siècles, en grec, du texte hébreu avec ajout de plusieurs autres livres. Ça marche, ça ? Et ça, ça va devenir l'Ancien Testament de l'Église. Parce que, à ce moment-là, il va y avoir des nouvelles écritures qui vont apparaître. Les lettres de Paul d'abord, on en reparlera, et après ça, à la fin du siècle, les évangiles, qu'on va appeler, nouveau, lentement, mais petit à petit, Nouveau Testament par rapport à l'Ancien. Et le Nouveau Testament, il est tout entier écrit en grec. Ça marche ? Il n'y a pas un mot d'hébreu ni d'araméen là-dedans. Il y a peut-être eu des traditions en araméen, on en reparlera, mais enfin, actuellement, c'est en grec. Voilà. Alors après, vous pouvez vous poser la question, mais qu'est-ce qu'on fait de la traduction latine, la fameuse Vulgate de Saint Jérôme ? Ça, ça se passe plus tard. Évidemment, quand l'Occident, le lieu où ça se passe, et notamment l'Église se développe en Occident, et que l'Occident devient chrétien, bah, il aimerait bien qu'on lui parle dans sa langue, qui est le latin. Et donc, il faut des gens pour traduire en latin. Ça s'est fait assez vite. Et puis, c'est Jérôme, au 5e siècle, qui prend sous sa coupe la traduction de la Bible en latin. Alors là, il y a des histoires, il veut revenir au texte hébreu. Bon, après, on n'en finit plus. Mais c'est ça qu'on a appelé la Vulgate, c'est la traduction à partir du 5e siècle de l'ensemble de la Bible en latin sous la mouvance de Saint Jérôme. Ça marche, ça ? Bon, pour que vous sachiez d'où ça vient le latin. Alors, maintenant, des choses plus intéressantes. Deux façons de se repérer, de se référer à la Bible. Je vous ai fait un petit schéma. En haut, les ronds, c'est la façon juive de se référer à la Bible. La Bible hébraïque, elle est bien sûr maintenant, c'est des livres reliés. Mais avant l'apparition du livre, qui n'apparaît qu'avec les chrétiens au 2e siècle, hein, c'est les chrétiens qui inventent le livre relié, enfin qui l'utilisent. Les Juifs avaient et ont gardé longtemps des rouleaux. Donc un rouleau, c'est au maximum le livre d'Isaïe. C'est pour ça que dans la synagogue de Nazareth, qui était une synagogue pas riche, on avait un rouleau, les rouleaux de la loi, le rouleau d'Isaïe et peut-être un rouleau des psaumes. Ils avaient des rouleaux, mais ils considèrent, ils pensent cet ensemble comme une série de cercles concentriques. Le plus important étant au milieu. Au milieu, on a la loi, la Torah, formée des 5 livres, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Ça marche ? Ça, c'est avec ça qu'on vit quand on est dans la tradition juive, la Torah. Et c'est ça qui est d'abord traduit en grec, parce que c'est avec ça qu'on vit. C'est à partir de là que va se construire la loi, ça c'est la loi écrite, et que va se construire ensuite la loi orale, puis le Talmud. Mais il faut aussi lire les prophètes à la synagogue. Les prophètes, en hébreu, ça se dit Nébim. Les prophètes, c'est un second cercle. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est moins important. D'ailleurs, quand on les lit en hébreu à la synagogue, le traducteur ne traduit pas verset après verset, mais il traduit paquet après paquet. Donc c'est beaucoup plus libre. Et puis, il y a un troisième cercle qui sont les ketuvim, les écrits. Les écrits, c'est les psaumes, Job, les proverbes, et puis tous les petits rouleaux, le cantique des cantiques, Coélète, donc l'Ecclésiaste, Esther. Je ne me rappelle plus le détail, enfin, on va les regarder tout à l'heure, il y en a 5 ou 6, d'accord ? Voilà. Ceux-là, ils sont encore moins, j'allais dire, c'est pas qu'ils sont moins importants, mais ce n'est pas le centre. Voilà. On les lit aussi, on les révère, on les utilise, mais le cœur, c'est la loi. Cet ensemble, si vous regardez les initiales, T, Torah, N, Nébihim, K, Ketuvim, écrit, Torah, prophète, écrit. J'aurais dû mettre la traduction, mais vous l'avez en bas. Hein. Loi, écrit, prophète. Cet ensemble a pris en hébreu et actuel le nom de Tanakh. C'est-à-dire que les Juifs parlent aujourd'hui du Tanakh. Évidemment, ils ne parlent pas de l'Ancien Testament. Il n'y a pas d'Ancien Testament pour eux. Il y a le Tanakh, les Écritures juives en hébreu. Ça marche ? Je peux ajouter, si vous voulez, des choses un peu plus compliquées, que le texte ancien, et on en retrouve des morceaux à Qumran, était, parce que c'est la règle dans les langues sémitiques, un texte sans les voyelles. Pensez à l'arabe actuel. Il n'y a pas les voyelles, c'est-à-dire que vous ne pouvez lire que si vous connaissez la langue. Il n'y a que des consonnes. Voilà. Si je vous donne les trois consonnes H, M, R, ben vous pouvez faire aimer, amour, amer, voilà. Émir. Voilà. Il faut des voyelles, mais si vous ne savez pas la langue, vous n'y arrivez pas. En fait, le texte de la Bible hébraïque est resté sous cette forme jusque vers le 4e, 5e siècle après Jésus-Christ. Mais il y a des savants qui ont passé leur temps à travailler, des généalogies, des séries de savants. Le monde juif, c'est le monde de l'étude. Hein. L'étude est plus importante que la prière. Elle est elle-même prière. Va et étudie. C'est ça la loi juive. Hein. Étudie. Donc il y a des savants qui, entre le 6e et le 9e siècle après Jésus-Christ, ont entièrement fixé les voyelles et donc la lecture. Ça va ? Parce qu'avant, vous pouviez lire un peu comme vous voulez. Donc, fixer les voyelles, la lecture. Ces savants s'appellent les massorètes. Et donc, on parle aujourd'hui du texte écrit avec les consonnes et les voyelles que vous pouvez apprendre à lire avant même de savoir l'hébreu, juste en apprenant les consonnes et les voyelles. Ça s'appelle le texte massorétique. Voilà. C'est un peu compliqué, si vous voulez oublier, vous oubliez, c'est juste pour que les mots disent quelque chose. Ce qui m'importe à moi, c'est que vous sachiez que le monde juif, il a le Tanakh et il n'a pas l'Ancien Testament. Ça marche ? Oui ? Ketuvim, ça veut dire écrit, j'aurais dû le mettre. Et regardez en bas. En bas, vous avez la loi. La loi, c'est Torah. Ensuite, laissez les livres historiques tranquilles, vous avez écrit. Non, j'ai mis dans le mauvais sens. Oui, parce que c'est plus dans le même sens. Écrit, c'est Ketuvim, prophète, c'est Nebiim. L'année prochaine, il y aura la traduction en face. Donc, je redis. La loi, Torah, Nebiim, prophète, Ketuvim, écrit. Écrit, ce sont les psaumes, les proverbes, le livre de Job, et puis le Cantique de Cantiques, l'Ecclésiaste, Coëlette, la Lamentation de Jérémie, le livre de Ruth, etc. Ça marche ? Est-ce que ça va ? Oui ? Tanakh, ça veut dire, c'est un acronyme, TNK. Vous remontez TNK, ça veut rien dire. Autrement dit, ça veut rien dire. Ça veut dire qu'on prend les trois consonnes comme si en français on faisait LPE. Et que ça se prononce, d'accord ? Loi, prophète, écrit. Donc, ils prennent les consonnes et ils ont mis des A pour que ça se lise, c'est tout. Donc, Tanakh, ça veut dire cet ensemble. Ça marche, ça ? Avec toujours cette idée qu'il y a un centre et qu'on s'éloigne du centre. Voilà. La traduction des Septante, elle, a tout de suite été utilisé dans le judaïsme, probablement selon les mêmes lois, mais très vite, à partir du premier, mais on ne sait pas bien comment ça fonctionnait. Ce qu'on sait, c'est qu'à partir du premier, deuxième siècle après Jésus-Christ, ce sont les chrétiens qui s'en sont emparés, la traduction grecque. Et eux, les chrétiens, ils ont classé et compris les livres autrement. Donc ce sont les mêmes éléments, mais ils sont classés et compris autrement. Les chrétiens ont compris ces écritures comme annonçant qui ? Le Nouveau Testament et Jésus crucifié et ressuscité. Ça va ? Les chrétiens ont lu toutes les promesses et les attentes qui conduisaient à Jésus-Christ. Et donc, ils ont organisé le livre différemment. Ils l'ont organisé suivant l'axe du temps. Puisqu'ils ne sont plus du tout dans cette perspective, et c'est pour ça qu'on a une interprétation très différente, dans cette perspective concentrique où la loi est au centre, et c'est elle qui régit tout, et le reste, on le fait éclater tout autour, eux, ils ont une perspective historique où tout converge vers Jésus incarné, crucifié, ressuscité. Et donc, ils vont appeler plus tard Septante, l'Ancien Testament par rapport à ce qui va devenir leurs écritures, Nouveau Testament. Mais du coup, tout est organisé suivant la ligne du temps. Est-ce que ça, vous voyez bien la différence? Tout à l'heure, vous disiez qu'elle a la différence. Ça joue encore aujourd'hui sur nos différentes relations à l'écriture. Nous, on a une perspective temporelle. Alors, la loi reste en premier, parce que ça, c'est la loi. Mais ensuite, des livres que les Juifs considéraient comme livres prophétiques. Les livres de Samuel, Josué, Juges, les livres de Samuel, les livres des rois. Les chrétiens ont dit non, ça raconte l'histoire. Et donc ça s'avance vers nous. Donc on va les appeler des livres historiques. Ça marche ? Ils sont au même endroit, mais on les appelle livres historiques. Ensuite, ils ont mis les écrits, les psaumes, les proverbes, Job. Bon, c'est de la méditation, de la réflexion sur la sagesse et la vie sage. Et ensuite, et enfin, ils ont placé les prophètes. Pourquoi ? Parce que dans la perspective chrétienne, les prophètes annoncent tous Jésus, Christ, fils de Dieu. Ça va ? Donc on a rebattu les cartes pour réaménager l'ordre, au moins dans la deuxième partie, de la Bible hébraïque et transformer le Tanakh en un Nouveau Testament, en Ancien Testament. Est-ce que ça marche bien ? Il faut le savoir parce que dans le dialogue judéo-chrétien, si on n'a pas ça en tête, on dit que des bêtises. Si on leur parle d'Ancien Testament, ils disent « Ah oui ?» Ben non, ils n'ont pas d'Ancien Testament. Ils ont le Tanakh. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est important de voir que nous ne lisons pas du tout le texte pareil. D'autre part, et je finis là-dessus, après je vous laisse la parole. D'autre part, oui, je voulais vous dire aussi, attendez, avant, le schéma que j'ai fait là, il veut montrer, je le reprendrai en janvier, mais il veut montrer que pour les chrétiens, les auteurs du Nouveau Testament, la croix, l'événement de Jésus-Christ, Jésus né, vivant, mourant et ressuscité, devient la clé d'interprétation de tout ce qui le précède. Autrement dit, moi je me représente ça, comme un aimant. Quand vous mettez un aimant, normalement, il y a la limaille de fer qui s'organise et qui vient converger. Donc, du coup, sous cet aimant, toute la limaille de fer qui était dans les écrits juifs se met à converger vers Jésus-Christ. Ça va ? Mais c'est un geste chrétien, ça. C'est nous qui lisons les écritures juives comme convergeant vers Jésus-Christ. Les juifs vous disent, moi je ne vois pas, hein. Chez nous ça n'a jamais convergé, c'est un rond. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas du tout la même appréhension des choses. Et il faut en être bien conscient. Nous avons une vision d'accomplissement des écritures et de relecture à partir de la croix et de la résurrection. Et il est légitime, et plus que légitime, pour les Juifs, de lire leur Tanakh sans avoir Jésus-Christ à l'horizon. Hein. Ça ne conduit pas nécessairement à Jésus-Christ, je suis désolée. Ils le vivent très bien sans que ça conduise à Jésus-Christ, même s'il y a des attentes messianiques. Ils le vivent très bien comme ça, ils le lisent très bien comme ça. C'est nous qui considérons que tout y conduit. Ça marche, ça ? Alors, la dernière chose. Non, ce n'est pas ça. Oui. Alors, je vous avais sur votre feuille, je ne vous le montre pas dans les... Je peux vous le montrer, je l'ai mis sous forme du PowerPoint, mais ce n'est pas bon. Vous avez une feuille qui vous donne l'ordre des livres de la Bible. Est-ce que vous allez retrouver ça ? C'est juste pour vous montrer que ça existe. Voilà. Une feuille qui vous donne l'ordre des livres de la Bible. Je vous explique cette feuille. Elle vous donne, à gauche... Dans la colonne de gauche, tout le monde là ? Parce que ça peut vous aider à vous y retrouver dans la multitude de Bibles que vous aviez là-bas. Dans la colonne de gauche, vous avez l'ordre du Tanakh, de la Bible hébraïque, où vous retrouvez, là c'est pas sous forme circulaire, parce que dans un livre relié, c'est pas sous forme circulaire, la Torah, les Nébihim, c'est traduit prophète, et les Ketuvim écrits, ça marche ? Voilà. Or, l'édition de la Bible qui s'appelle la TOB, la traduction œcuménique de la Bible, a voulu respecter cet ordre-là. Et donc, dans la Tobe, vous trouvez cet ordre-là. Mais, comme il y a de nombreux livres qui ne sont pas dans le canon biblique, mais que les Juifs lisent aussi bien, dont certains sont écrits en grec, et qui sont lus par les catholiques et les orthodoxes, la Tobe les a ajoutés sous le nom de Deutéronomique. Vous tournez la page à gauche. Deuxième loi. Ce sont des livres qui ne font pas partie du canon juif, mais qui font partie du canon chrétien, au moins chez les catholiques. Alors, normalement, les protestants ne les ont pas, mais enfin, c'est comme c'est compliqué chez eux, on va laisser tomber. Et vous avez même, dans la dernière édition de la Tobe, mais oui, parce que maintenant, ils y reviennent, la dernière édition de la Tobe, de 2010, ce qu'on a appelé les trito-canoniques, des livres qui sont lus seulement par les orthodoxes, et qu'on a donc introduit là. Ça marche ? Voilà, pour que vous compreniez l'ordre de la Tobe. Le Nouveau Testament, ensuite, c'est facile, c'est tout le monde pareil. Mais j'ai fait une colonne de droite où vous avez l'ordre des livres dans la Septante, donc l'ordre historique, la flèche que j'ai montrée tout à l'heure, avec bien sûr le Pentateuque, la loi qui est devenue Pentateuque, mais ensuite des livres historiques, des livres poétiques et des livres prophétiques. Ça va ? Ça, c'est l'Ancien Testament des chrétiens, c'est la Septante. Et la Bible de Jérusalem a cet ordre-là, de même que la Nouvelle Bible en français courant. C'est pour que vous y retrouviez, parce que sinon, d'une Bible à l'autre, moi, dans la Bible de Jérusalem, je me perds toujours. Comme j'ai l'habitude de la Tobe et du canon hébraïque, dans la Bible de Jérusalem, il me faut toujours mon petit machin pour me retrouver. Voilà, comme ça, vous avez l'ordre, les ordres comparés. Alors, il y a des variantes, hein. Au niveau des écrits, il y a des variantes, mais on s'en fiche. Ça marche ? Voilà, ça peut vous aider à vous y reconnaître. Je voudrais dire... Oui, question ? Parce que de temps en temps, parce que je n'arrive pas à me décider. En hébreu, il y a une aspiration à la fin. C'est comme Sarah, on écrit avec un H ou sans H ? C'est la transcription qui est... Il faut que je me décide. Voilà. Dernière chose quand même. Je reviens sur le respect de la Bible dans la tradition juive. Le respect du texte est immense, c'est-à-dire que on ne traduit pas la Bible, on la lit en hébreu, même si elle a été traduite oralement, mais alors ça s'appelle le Targum. On ne traduit pas la Bible, on la lit en hébreu, le petit garçon à la bar mitzvah, il doit lire la Bible en hébreu, il apprend pour ça. On la lit en hébreu, et c'est ça qui fait foi. Et on ne bouge pas non plus la lecture des lettres qui ont été, des voyelles qui ont été données par les massorètes. Mais on commente à l'infini et on commente le moindre petit signe, le moindre iota de la loi, le moindre iote de la loi, on le commente. Et toute la tradition de commentaires s'accumule en se répondant et on lit toute la tradition pour ajouter quelque chose. Donc la Bible part en éclat, mais en éclat à partir d'un centre qui ne bouge pas. La tradition chrétienne n'a jamais fixé ni les voyelles ni les consonnes de son texte biblique. Pourquoi ? Parce que pour elle, la parole de Dieu doit résonner dans toutes les langues et la Bible est faite pour être traduite. Traduite. Et ça commence avec le récit de Pentecôte, où chacun entend dans sa langue la parole de Dieu. Dans sa langue. Ça veut dire que la Bible est faite pour être traduite. Il y a un organisme où les protestants sont très actifs, mais qui est œcuménique, qui s'appelle l'Alliance biblique, qui a traduit actuellement la Bible en entier dans plus de 700 langues, alors qu'il y a 4000 langues. Il y en a 7000 de langues, mais sans compter les dialectes, il y en a 4000. Ils ont traduit en 700 langues. Le Nouveau Testament seul, un peu plus. Bon. On traduit. Évidemment, traduire, c'est trahir, vous savez bien. En même temps, traduire, c'est faire résonner dans une culture différente. Et c'est pour ça qu'il y a diverses traductions de la Bible, et que vous n'avez pas la même dans la traduction œcuménique, dans la Bible de Jérusalem et dans la Nouvelle Français courant. C'est bien le même texte grec dessous, C'est pas la même traduction. Et quand je dis c'est le même texte grec dessous, c'est pas si sûr que ça. Parce que le texte grec, il s'est lui-même transmis d'âge en âge et de copiste en copiste dans tous les monastères de l'Occident et de l'Orient où les moines recopiaient, avec beaucoup de variantes, beaucoup d'erreurs, et que le texte que nous avons établi actuellement est un texte refait par des savants. Le magistère de l'Église ne s'est jamais occupé de fixer le texte grec, ni de la Septante, Ancien Testament, ni du Nouveau Testament. C'est les savants qui font ça, hein, et l'Église laisse faire, parce que de toute façon, il faut traduire. Ça va ? Donc vous pouvez même comparer des traductions. Et puis il y a des traductions qui sont plus littérales, et il y a des traductions qui sont plus faciles à lire, comme la Nouvelle Français Courant. Il y a même une traduction de la Bible, qui est la Bible en français fondamentale, avec 2000 mots, et tout au présent. Ben, pour les gens qui ne manient pas facilement les nuances du français ou les mots difficiles, c'est quand même la parole de Dieu, à travers des paroles d'hommes. Ça marche ? Oui ?
Erroner le texte, est-ce que c'est à cause de ça que la Torah, elle, est restée orale ?
Non, c'est un autre rapport. La Torah n'est pas orale, hein, elle est écrite.
Oui, elle
est... La traduction,
mais... oui. Oui, c'est la traduction.
Non, c'est un autre rapport à la loi. La loi est fixée, la loi est écrite, et finalement, ce qui est aussi important, c'est la loi orale, qu'on va appeler le Talmud, qui se crée autour. C'est un repère qu'on... Il y a une idée quand même de sacré là-dedans, ce que n'a pas du tout le texte chrétien. Sacré ou sauf, c'est vraiment ce texte-là qui fait référence et qu'on doit garder tel que, mais qu'on explique. Oui ?
Mais il y a bien eu la traduction en grec.
Oui.
Donc là, est-ce qu'il n'y a pas eu des discussions entre les...
Eh bien, ça a été un débat pas possible en monde juif. Ils ont fait la traduction grecque. Et il y a des juifs qui ont dit c'est magnifique. Philon d'Alexandrie, il y a une tradition juive qui a dit c'est magnifique. N'empêche que... Même pas 100 ans après la première traduction, et vous pouvez lire ça dans vos Bibles, dans le prologue du livre qu'on appelle le Siracide ou l'Ecclésiastique, qui est le petit-fils de celui qui a écrit le livre, qui prend la parole et qui dit « Voilà, je vous donne la traduction en grec de ce que mon grand-père a écrit il y a 40 ans ou 50 ans en hébreu, je vous donne la traduction en grec. Bien sûr !» Je ne serai pas omis, parce que ça s'est déjà fait, on a déjà commencé à tout traduire, donc moi je veux que vous l'ayez aussi en grec. Mais bien sûr, ça ne sera pas au niveau de l'original. Et à partir de ce moment-là, on a commencé, en monde juif, à critiquer la Septante, à essayer de la rapprocher de l'original, jusqu'à ce que, après 70, les chrétiens s'étant emparés de la Septante, le monde juif dit, terminez la Septante, nous, on n'a que l'hébreu. Et ils n'ont plus voulu la Septante. Parce que les chrétiens s'en étaient emparés, que c'était énervant aussi de trouver des Christos, des oins, qui étaient donc le Christ des chrétiens, à tous les tournants de leur Bible. Grec. En grec, oin, c'est Messie, c'est Christos, alors c'est énervant. Mais c'est le monde juif qui a refusé, après l'avoir utilisé, qui a refusé, après 70, après Jésus-Christ, la Septante. OK ? Bon. Eh bien, on s'arrête, hein, on est mort. Alors, je vous propose de déjeuner, de vous réchauffer peut-être, et on se retrouve vers 1h30. Allez, ça marche.